Alors bonsoir tout le monde.
Alors on en arrive au troisième et dernier message de notre week-end. Déjà, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur ce qu'on a vu depuis notre arrivée. Alors après avoir vu dans le premier message la foi d'Abraham, dans Hébreux 11, une foi qui répond à l'appel de Dieu, une foi qui perce l'invisible, une foi qui croit au miracle, et puis dans Hébreux 6, pour le deuxième message ce matin, l'espérance d'Abraham, une espérance sûre et solide fondée sur une promesse et un serment de Dieu. Alors pour notre message de clôture ce soir, j'aimerais qu'on prenne le 13e chapitre de l'Évangile selon Jean, le 4e Évangile, Jean chapitre 13. Mais ce soir, on ne va pas parler d'Abraham. Mais on va parler plutôt de celui qui a dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Alors, qui a dit ça? Évidemment, le Christ, notre Seigneur. On va mettre les projecteurs sur Jésus, comme Matthieu chapitre 1 nous le présente dans la généalogie. Jésus, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de Dieu. Jésus, le fils d'Abraham, plus grand qu'Abraham. On va se pencher sur une partie de son dernier discours, le discours de la chambre haute. Et ces paroles-là de Jésus dans le discours sont en quelque sorte son testament spirituel. Jésus prépare ses disciples à son départ. Dans quelques heures, il va aller à la croix. Et là, au début du chapitre 13, il leur fait voir son cœur. Il leur montre son amour. Il leur lave les pieds. C'est comme une anticipation de ce qu'il va faire pour eux à Golgotha, au calvaire. Il va les servir. Vous savez qu'on ne peut pas servir Dieu avant que Dieu nous serve. Il faut que Dieu nous serve d'abord pour qu'on puisse le servir. Et Dieu nous a servi à la croix. On va lire le texte dans Jean chapitre 13, versets 33-35. Et comme on a fait ce matin, ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, levez-vous pendant la lecture de la parole du Seigneur. Jean, chapitre 13, versets 33 à 35, un texte qu'on connaît bien, je pense. Mais c'est bien de pouvoir se le rappeler. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jusqu'ici la lecture, prenez place. Je vais prier. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous encore ce soir. Parce que le thème que nous allons aborder est trop grand pour nous. Nous ne savons pas bien en parler, mais ton esprit en parle parfaitement. S'il te plaît, nous implorons le secours de ton Saint-Esprit pour nous éclairer ce soir, pour nous parler. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, je vais diviser mon message en trois parties. En posant à notre texte, le texte qu'on vient de lire, on va lui poser trois questions toutes simples. Premier point du message, c'est quoi? Première question. Deuxième point, c'est comment? Et troisième point, c'est pourquoi? Quoi? Comment? Pourquoi? Tout simple, les trois points du message, facile à retenir. Alors commençons par la première question. Quoi? C'est quoi la leçon la plus importante que Jésus veut laisser à ses disciples avant de retourner vers son Père? C'est quoi? Alors bien sûr, pendant 3 années de ministère, Jésus a abordé des tas de sujets très importants, la prière, l'évangélisation, la famille, le ciel, l'enfer. et on pourrait rajouter encore. Quel est ce sujet primordial qu'il veut que ses disciples retiennent par-dessus tout? La leçon la plus importante que Jésus veut laisser à ses disciples avant de mourir, c'est l'amour. Est-ce que ça vous surprend? Moi, pas du tout. Déjà dans l'Ancien Testament nous enseigne que l'amour est plus fort que la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Nouveau Testament nous apprend aussi que sans amour, nous sommes rien, on l'a chanté, juste là. L'amour, c'est le lien de la perfection, Colossiens 3, 14. Selon 1 Corinthiens 13, encore, la plus grande des trois vertus théologales qui demeure, c'est l'amour. L'amour, c'est aussi le plus grand des commandements et le résumé de toute la loi de Moïse, Matthieu 22. Il est même dit de Dieu que dans sa nature même, il est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. L'amour, donc, un thème très très large. La Bible a beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet. Mais, dans Jean chapitre 13, Jésus est très précis dans son commandement. Ce n'est pas un commandement hyper large, c'est très précis en fait. Il donne aux siens l'ordre de quoi? De s'aimer les uns les autres. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais un peu étonné que Jésus commande l'amour. En fait, je dis ça, mais c'est parce qu'on a l'habitude de se faire répéter dans les chansons populaires qu'on peut entendre à la radio ou peut-être sur Spotify ou dans les séries qu'on regarde sur Netflix, être peut-être surpris que l'amour, ça peut être commandé parce qu'on nous répète sans cesse que l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Alors, comment pourrait-on commander aux hommes d'aimer si effectivement l'amour c'était que cela? Est-ce qu'on peut ordonner une émotion? L'amour n'est-il pas quelque chose de spontané qui ne peut pas se commander? C'est ce que notre monde pense, hein? Mais Jésus ici donne un ordre à ses disciples. Jésus, lui, il commande. Aimez-vous. Alors, vous l'avez certainement constaté, il y a un décalage énorme entre la définition de l'amour dans notre culture et la définition de l'amour dans la Bible. Et je crois qu'il faut en être vraiment très, très conscient. Imaginez cette scène un instant. Vous rassemblez un groupe dans une salle fermée pendant quelques jours. Un peu comme ça se passe pendant un procès, avec des jurés. Hein, ils sont dans une pièce fermée et ils délibèrent. Alors, laissez ces gens s'exprimer librement. Laissez-les agir au gré de leurs émotions. Laissez-les tout dire ce qui leur vient dans le cœur spontanément. Je peux vous assurer que ça ne sera pas toujours l'amour qui va se manifester. Ça sera plutôt, souvent, l'égoïsme, les désaccords, la frustration qui vont prendre le dessus. Alors, aimer. Aimer, on le voit, d'après la définition de Jésus, ça concerne la volonté. Ça peut se choisir. Et Jésus dit que c'est un nouveau commandement. Alors, une fois de plus, ça peut nous surprendre. Je vous donne un commandement nouveau. Et là, on se pose la question, mais pourquoi nouveau ? Lévitique 19 mentionne déjà le commandement d'aimer son prochain. Je cite Lévitique 19, 18, « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, l'ordre d'aimer n'est pas nouveau dans le sens de « neuf ». Jésus ne dit pas ici que ce commandement n'a jamais été donné avant, qu'il est absolument inédit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Non, mais Jésus veut comme renouveler ce commandement en lui donnant une nouvelle fraîcheur. C'est comme s'il voulait lui donner aussi une nouvelle application. Aimer les frères et sœurs de l'Église. Il lui confère aussi une nouvelle orientation. Il s'agit de s'aimer entre enfants de Dieu, aussi différents que nous sommes les uns des autres, avec des arrière-plans très, très variés. Alors, des intellectuels, des manuels, des riches, des pauvres, des introvertis, des extravertis, des jeunes, des vieux, etc. Alors, peut-être que vous me dites, aimer les frères et sœurs, ça coule de source maintenant que Christ nous a sauvés. On est nés de nouveau, nous. Facile. En êtes-vous si certain? Il y a malheureusement des frères et sœurs qui s'entre-déchirent parfois dans les églises à cause de différences d'opinion, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter tel ou tel style de musique peut-être, ou tel genre de leadership, ou à cause des rivalités, de la jalousie ou de l'orgueil. C'est déplorable. Et pourtant, ça existe. S'il s'agissait d'aimer selon les critères du monde, on y arriverait peut-être. Les pharisiens aimaient ceux qui leur ressemblaient. Mais Jésus a dit, Matthieu 5:20, « Si votre amour ne dépasse pas celui des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. » Voyez, le quoi de Jésus dans notre passage, c'est donc de s'aimer entre frères et sœurs, de s'aimer dans l'Église. Arrêtons-nous un instant. Laissons Dieu sonder notre cœur maintenant. Demandons-nous sincèrement, est-ce que moi j'aime vraiment tous mes frères et sœurs à l'église de Rosemont, à l'église d'Anjou, ou dans l'église d'où je viens? Est-ce que je les aime vraiment, sincèrement? S'il y a un brin d'hésitation quand vous repassez le nom des frères et sœurs dans votre tête, continuez à écouter. La suite du verset nous précise la manière d'aimer. Comment aimer? De quelle façon sommes-nous appelés à aimer ses frères et sœurs dans la foi? Jésus explique comment. Selon quel modèle? En suivant quel exemple? Verset 34. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Une réponse facile à comprendre, sans ambiguïté. Aimer à sa manière, à lui. Je pense qu'on s'en rend tous compte. La commande est énorme. Alors comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? Il les a aimés d'un amour unique, incomparable. On pourrait prendre tous les superlatifs qui existent pour qualifier l'amour de Jésus et on serait encore en dessous de la réalité. Et moi, j'ai retenu de l'amour du Seigneur trois grandes catégories que je vous suggère ici. Premièrement, Jésus a aimé d'un amour impartial. J'explique. Un amour impartial. Jésus n'a pas choisi d'être bon envers une certaine caste de personnes au détriment d'une autre. Il a aimé des nationalistes, les zélotes. Il a aimé des pro-Roms, les sadducéens. Il a aimé des hommes, des femmes, des enfants, des exclus, des lépreux, des gens de mauvaise vie, des religieux, des militaires, des pacifistes, des étrangers. Jamais Jésus ne s'est laissé impressionner par le statut d'une personne. Ah, lui, il est haut placé, haut gradé. Ah, lui, je vais l'aimer. Non. Son amour a été exemple de tout favoritisme. Et nous, on est appelés à aimer nos frères et sœurs de cette manière-là. Au-delà de nos affinités naturelles, au-delà de nos préférences, aimé d'un amour impartial. C'est pas rien. Deuxièmement, Jésus a aimé d'un amour sacrificiel, d'un amour qui s'oublie, sans jamais rechercher ses intérêts personnels. Jésus ne s'est pas complu en lui-même. Il a donné sa vie pour ses disciples. Il a versé son sang pour les sauver. Il a renoncé à son confort et à ses droits les plus basiques pour eux, pour vous et moi. Jésus a aimé les siens d'un amour qui lave les pieds des autres, d'un amour qui s'humilie, d'un amour qui accepte la moquerie et les crachats, de cet amour agapé qui est prêt à mourir pour le bien de l'autre. Question. Connaissez-vous une autre personne qui a aimé comme ça? Alors plusieurs ici, je pense, connaissent Jean 3,16 par cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réciter haut et fort en se levant Jean 3,16 par cœur? Quelqu'un peut faire ça? Allez. Amen, merci. Vous croyez ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, l'amour de Dieu. Maintenant, question. Connaissons-nous 1 Jean 3,16? 1 Jean 3,16, est-ce qu'on connaît? Je vais vous le lire. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je répète. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça veut dire qu'avant, on ne connaissait pas le véritable amour. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Avons-nous réfléchi à ce que ça veut dire concrètement pour nous dans l'Église de s'oublier, de chercher l'intérêt de l'autre, d'être prêt à mourir à soi-même, de donner sa vie pour ses frères et sœurs? Peut-être que ça pourrait vouloir dire, par exemple, aller rendre visite à un malade à l'hôpital. Peut-être ça pourrait signifier préparer un repas pour une maman qui vient d'avoir un bébé. Peut-être que ce serait d'inviter chez soi une personne qui n'a pas de famille au pays, ici au Canada. Ou peut-être aider un frère ou une sœur financièrement. Ou offrir un transport à quelqu'un qui n'a pas de voiture. Ou faire du babysitting pour permettre à une maman fatiguée de se reposer. Et là, la liste n'est pas exhaustive. Aimer comme Jésus nous a aimés. La barre est haute. Et pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il dit « Qui est suffisant pour ces choses ?» Et un peu plus loin, il dit « Notre capacité vient de Dieu. » Rappelons-nous que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand nous aimons les autres, nous l'aimons avec l'amour que Dieu a déversé dans notre cœur. Nous l'aimons avec son amour à lui. Enfin, à la croix, Jésus a aimé d'un amour qui pardonne. En route vers la crucifixion, tous l'ont abandonné. Judas l'a trahi, Pierre l'a renié. La foule l'a méprisé et lui, du haut de sa croix, il a demandé à son Père d'avoir pitié. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ne porte pas à leur compte leur péché. » Dans les évangiles, Jésus a affirmé « Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. » C'est quand cette femme lui a lavé les pieds avec ses larmes. Est-ce qu'on comprend de quel amour Jésus nous a aimés pour nous pardonner comme il l'a fait? Est-ce qu'on a compris le degré de pardon que Jésus nous a accordé? Moi, je pense sincèrement que si on comprenait plus, on aimerait plus. Plus on va comprendre le pardon que Dieu nous a fait, plus on va aimer. L'apôtre Paul, dans sa prière en faveur des chrétiens de l'église d'Éphèse, il parle de la hauteur, de la longueur, de la largeur, de la profondeur de l'amour de Christ. Un amour multidimensionnel. Et là, il nous surprend, Paul. Il dit que connaître cet amour-là, ça équivaut à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Si tu comprends les dimensions de l'amour de Christ, tu vas être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Ça intéresse quelqu'un ici? Vous vous rendez compte? Connaître ce genre d'amour, pas seulement en théorie, mais d'une manière expérimentale dans notre vie quotidienne, ça nous ouvre sur toute la plénitude de Dieu. S'aimer entre frères et sœurs, de l'amour incomparable de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes comme moi, vous savez déjà combien l'amour de Dieu est grand. On l'étudie, on le lit dans la Bible. Rien dans le monde ne peut égaler ce genre d'amour, mais pour être tout à fait honnête, moi j'avoue que j'ai souvent du mal à le vivre, cet amour-là. Je suis encore tellement égoïste, tellement égocentrique, tellement attiré par ce qui me ressemble. J'aimerais tant être rempli de l'amour de Jésus, rempli au point où je pourrais aimer des chrétiens qui n'ont aucune affinité avec moi. Pourquoi ne pas prier les uns pour les autres et demander à Dieu qu'il nous donne ce genre d'amour ce soir et dans les jours qui vont suivre? On peut lui demander. Alors, juste avant de les quitter, Jésus prend donc le temps de leur rappeler la priorité absolue de ce nouveau commandement, l'amour fraternel, s'aimer les uns les autres dans l'Église. Il leur dit ensuite comment et dans quel esprit le mettre en pratique. Il dit « comme je vous ai aimé », à sa manière, pas comme on a souvent l'habitude de voir dans le monde. Aimer ceux qui nous aiment, dans le monde, ceux qui nous renvoient de nous-mêmes une image positive, on les aime, ou ceux qui, de qui on souhaite obtenir quelque chose en retour, on les aime. Aimer comme Jésus. Dernière question. Pourquoi donc s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés? Pourquoi? Jésus termine ses échanges en cœur à cœur avec les siens dans la chambre haute en leur faisant comprendre la raison de ce commandement-là. Alors, quelles seraient les raisons logiques d'aimer ses frères et sœurs à la manière de Jésus si on y pense rapidement? On pourrait répondre comme ça, ben, c'est pour refléter dans l'Église l'unité qu'il y a entre Jésus et son Père au sein de la Trinité. C'est ce qu'on voit dans Jean 17 à la fin du discours de la chambre haute. Hein? Quand on s'aime, on reflète l'unité de Dieu. Et ça, c'est fort. On est appelé à décalquer dans l'Église l'unité qui existe déjà dans la Trinité. Et donc, je dirais que c'est une très, très bonne raison, ça. Notre unité entre nous doit se décalquer sur la personne même de Dieu, du Dieu trinitaire. Être unis entre nous comme Jésus est uni au Père, comme le Père est uni à Jésus, comme l'Esprit est uni au Père et au Fils, ça manifeste l'amour de Dieu. Très bonne raison. Une autre raison qui pourrait être très très bonne de s'aimer entre nous, ce serait pour assurer la paix et l'harmonie au sein du peuple de Dieu. C'est absolument essentiel, ça. Jésus a dit « un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister ». Donc l'unité, la paix, ce sont deux bonnes raisons logiques de s'aimer entre nous. Mais dans notre chapitre ici, chapitre 13, Jésus a en tête une toute autre chose. Jésus, bien sûr, pense à la vie interne de son Église, ça c'est certain. Avez-vous remarqué, il ne pense pas que à ça. Pas uniquement en tout cas. Jésus pense aussi à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est ce qu'on voit dans notre chapitre ici. Jésus a à cœur les perdus. Jésus a un fardeau pour ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comment les convaincre, ces gens-là? Comment les amener à désirer l'Évangile? Jésus a dit à ses disciples que c'est en s'aimant les uns les autres que les chrétiens vont avoir le plus d'impact dans le monde. Fort. Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, le grand théologien du IVe siècle, le philosophe chrétien, a dit avec beaucoup de justesse, il a dit que la meilleure défense apologétique du christianisme, c'est quoi? Il a dit, c'est l'amour. La meilleure défense apologétique du christianisme, c'est l'amour. Le meilleur argument pour témoigner que le message de Jésus est vrai, c'est la façon dont les chrétiens se traitent entre eux. Voyez-vous, s'ils sont patients, s'ils ne cherchent pas leur propre intérêt, s'ils ne s'enflent pas d'orgueil, s'ils ne soupçonnent pas le mal, s'ils croient tout, s'ils espèrent tout et s'ils supportent tout, les non-chrétiens vont commencer à remarquer. Ça fait tellement contraste avec les relations qu'on a l'habitude de voir dans le monde que les non-chrétiens vont commencer à remarquer. Donc les chrétiens s'aiment les uns des autres pour témoigner. Les chrétiens s'aiment les uns les autres pour faire aimer Jésus autour d'eux, pour montrer au plus grand nombre ce que c'est qu'un disciple. Et j'aimerais dire ceci, que le genre d'amour que Christ commande, c'est ce dont notre monde a le plus besoin. Le besoin le plus criant dans notre monde, c'est que notre monde voit l'amour de Jésus. Et quand on s'aime, on fait voir Jésus à ceux qui nous regardent. C'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Verset 35. Alors, je ne sais pas si on mesure la portée de ce que Jésus est en train de dire ici dans notre passage au verset 35. Vous, Jésus ici donne l'autorisation à ceux qui ne le connaissent pas. Il leur donne l'autorisation d'entrer dans nos rassemblements, comme ce soir ici, d'observer la façon de vivre des chrétiens. Et ils ont droit de dire si on est des disciples, des vrais disciples, juste en nous regardant vivre. Waouh! Ah, c'est fort. Alors, on va se prêter à un petit exercice maintenant. Il va y avoir des insignes qui vont apparaître sur l'écran. Et je vais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut reconnaître l'insigne qui va apparaître sur l'écran? C'est quoi ça? Un shérif, vous êtes fort. C'est l'étoile à cinq pointes qui représente un shérif. Quand tu vois quelqu'un avec cette étoile-là, tu sais que c'est un shérif. Alors, on va montrer d'autres symboles. Et là, vous allez me dire, c'est quoi? C'est quoi ça? Nike! Oui, un autre. Saint-Hubert! Un autre. Il y a des fans des Nordiques ici, je sais. Les Nordiques de Québec. Un autre. Dove, le savon. Un dernier. Shell, station service. Pas trop difficile. Hein? Ces insignes, en fait, nous aident à identifier peut-être que ce soit un métier, une équipe sportive, une voiture, un restaurant, une marque de chaussures, une station service, des choses qui font partie de notre vie de tous les jours et qu'on peut reconnaître rapidement. Mais savez-vous que la Bible nous parle aussi d'un insigne qui représente le vrai chrétien? Un insigne qui nous fait le reconnaître dans son quotidien. Vous connaissez? C'est l'amour. L'insigne du chrétien, c'est l'amour. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Ceux qui voient des chrétiens s'aimer entre eux reconnaissent la vraie marque d'un disciple. On ne ressemble jamais plus à Jésus que lorsqu'on s'aime entre nous. combien le monde a souvent été confus de ne pas voir cet insigne chez ceux qui se disent chrétiens. Et regarde vivre, on se demande, mais il est où son insigne? Confus en voyant des frères et sœurs se disputer. Combien l'image de Jésus a souvent été ternie par des chrétiens qui se mordaient entre eux, qui étaient méchants entre eux. Récapitulons. Notre première question, c'était quoi? Quoi? Alors le quoi de notre texte, c'est l'amour fraternel entre chrétiens. Deuxième question, c'était quoi? Comment, à la manière de Jésus, comme Jésus, en s'aimant sans partialité, avec sacrifice, généreusement, en se pardonnant. La troisième question, pourquoi? Pour montrer Christ au monde, pour leur faire voir la sublime beauté de l'Évangile. Alors rappelons avant de conclure que l'amour, c'est la plus grande des trois vertus théologales. 1 Corinthiens 13, 13. L'amour englobe les deux autres vertus et les surpasse. Pourquoi? Parce que selon 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et au verset 8, l'amour ne périt jamais. Paul enseigne même à Timothée que le but du commandement, c'est l'amour. Voyez-vous, toute la loi est résumée dans ces deux commandements, aimer Dieu et son prochain. Que Dieu nous donne de ressembler à Abraham dans sa foi, d'être comme lui dans son espérance, mais par-dessus tout et au-dessus de tout, ressembler à celui qui est plus grand qu'Abraham dans sa façon d'aimer son Église. Amen.
Amen.
Amen, on va prier. Seigneur notre Dieu, ça peut être facile de parler de ces thèmes-là, mais tu sais bien que c'est tellement pas facile d'aimer comme tu as aimé. Notre cœur naturel n'aime pas, il est centré sur lui-même, il cherche ses intérêts. Pardon, Seigneur. Mais Seigneur, révolutionne notre vie par ton amour. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Change notre cœur. Transforme nos vies. Et permets, Seigneur, que, entre chrétiens, en nous aimant les uns les autres, que beaucoup de personnes soient touchées et qu'ils reconnaissent qu'on est tes disciples. Oui, Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs encore. Par l'Évangile, par Jésus-Christ, fais-nous aimer comme toi et répands aussi au travers de nous et autour de nous ton amour pour que le monde croie que c'est toi, Père, qui as envoyé Jésus. Je prie au nom de Jésus. Amen.